Bonjour à toutes et tous, et un petit mot simplement avant l'épisode d'aujourd'hui pour vous souhaiter une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit un peu plus riante et joyeuse que la précédente évidemment, et aussi et surtout pour vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc une discussion avec le général Benteja, ancien chef d'état-major des armées, va être en deux parties, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, mardi prochain, mardi 12 janvier. La raison est assez simple, c'est que le général a eu la gentillesse de nous donner, de m'accorder du temps pour discuter de plein de choses, depuis son parcours militaire jusqu'aux coulisses de l'Élysée et aux grands événements de la présidence de Jacques Chirac. Et donc, j'ai pris ce temps avec plaisir et sans aucun scrupule, et donc je me suis retrouvé avec un enregistrement de plus de 2 heures, ce qui clairement faisait passer dans une dimension un peu nouvelle pour un épisode. D'autant que parfois je peux couper et réduire un peu, mais là franchement je voyais pas comment. Alors j'ai beaucoup hésité entre faire une très grosse émission de 2 heures ou deux d'une heure, et j'ai donc finalement opté pour la seconde solution. Alors je sais pas si c'est la bonne option, mais bon, l'idée c'est que vu qu'on sort 2 épisodes par semaine en ce moment, je sais pas si tout le monde aurait le temps d'écouter des épisodes de cette dimension, même si vous faites beaucoup de trajets ou beaucoup de sport d'ailleurs. Et ça m'aurait embêté que des auditeurs s'arrêtent au milieu et laissent l'épisode en plan parce que y en avait d'autres qui sortaient rapidement après, notamment parce que la deuxième partie est aussi parfaitement passionnante. Bref, donc ça a été l'option retenue, 2 épisodes d'une heure, mais n'hésitez pas à nous dire si vous pensez au contraire que des épisodes encore plus longs seraient préférables, par exemple dans les commentaires sur Apple Podcast ou encore par les moyens de communication habituels, c'est-à-dire par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Donc, première moitié de cette discussion avec le général Benteja, la semaine prochaine ce sera vraiment une plongée dans les années de présidence de Jacques Chirac dont il a été le chef d'état-major des armées, mais aujourd'hui c'est son parcours, son évolution opérationnelle et sa découverte de cet univers assez fascinant qu'est le palais de l'Élysée vu à travers le prisme et disons le collimateur d'un militaire qui exerce ses fonctions. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et j'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir le général Henri Benteja, ancien chef d'état-major des armées de 2002 à 2006, ancien chef d'état-major particulier du président de la République aussi, de 1999 à 2002, deux fonctions évidemment très importantes et très intéressantes au sommet des armées françaises, sur lesquelles vous revenez notamment dans un livre qui paraît ces jours prochains, « Les ors de la République » aux éditions Perrin. Donc bonjour général, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le collimateur.
Bonjour monsieur.
Alors, j'ai évidemment mis en exergue en quelque sorte deux de vos fonctions les plus marquantes, en tout cas celles qui sont les plus importantes pour l'appareil militaire français, à savoir chef d'état-major particulier du président et chef d'état-major des armées. Je pense qu'on peut tout de suite introduire les acronymes qui sont très habituels pour ces deux fonctions qu'on risque de souvent utiliser un peu machinalement, qui sont donc respectivement CEMP pour chef d'état-major particulier du président et CEMA pour chef d'état-major des armées. Mais évidemment, il y a toute une carrière avant et autour sur laquelle on va largement revenir. Et d'ailleurs, je peux tout de suite mentionner que, bon, d'une manière qui n'est pas totalement habituelle, vous n'avez pas terminé votre carrière en tant que chef d'état-major des armées, comme c'est le cas de beaucoup d'autres CEMA, puisque c'est la fonction la plus importante des armées françaises, puisque vous avez ensuite occupé le poste de chef d'état-major du comité militaire de l'Union européenne. Je pense qu'on en reparlera, parce que ça nous amènera naturellement à parler d'Europe et de défense. Donc, j'ai ici en quelque sorte attaqué le sujet par la fin, mais il faut sans doute reprendre les choses à l'endroit et commencer par le commencement. Et je vais donc tout de suite lancer la question que je pose très rituellement quand on reçoit un officier à la carrière illustre comme vous. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu militaire général? D'où vous est venue cette idée, puis ce choix, puis ce chemin, disons, du métier des armes?
Alors curieusement, je dirais, j'ai toujours voulu être militaire. J'ai toujours voulu être militaire. Pour des tas de raisons. Je pense en partie parce que mon père avait une carrière militaire rentrée, si je puis dire. Il était médecin civil, il était pédiatre et médecin hospitalier. Mais il avait 2 frères officiers, dont un a été tué en Algérie d'ailleurs. Et il avait toujours eu envie aussi de faire autre chose, même s'il adorait son métier de médecin. Voilà, donc j'ai bénéficié, si je puis dire, d'un report de carrière de la part de mon père. Et je n'ai pas le souvenir, étant enfant, d'avoir jamais rêvé d'être autre chose. Je n'ai pas rêvé d'être pompier, comme tout le monde. Je n'ai pas rêvé d'être médecin, même. Voilà, je voulais être militaire. Alors, ça a été largement nourri par mes lectures, parce que j'étais boulimique de lecture. Je le suis toujours. Je lisais beaucoup de romans.
Mais alors, vous lisiez quoi? Oui, c'est quoi les lectures militaires pour un enfant qui veut devenir militaire? Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est de. Je sais pas, l'épopée d'Alexandre, est-ce que c'est de l'histoire ancienne ou est-ce que c'est la Première Guerre mondiale, le 19e siècle? C'est quoi?
C'était un peu tout. L'histoire ancienne, pas trop, pour être franc. Je veux dire, même si j'ai fait du latin et du grec, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Non, je lisais Alexandre Dumas, bien sûr, les Trois Mousquetaires, comme tout le monde, mais aussi tout le reste, pas seulement les Trois Mousquetaires. Je lisais Joseph Perret, qui a beaucoup écrit sur le Sahel, en particulier les Méharis, etc. Je me souviens que l'Escadron Blanc était longtemps un de mes romans favoris, quand j'avais 12 ou 13 ans. J'ai lu plus tard Saint-Exupéry, j'ai lu Julien Gracq, Le Rivage des Sirtes et Un balcon en forêt, je veux dire, qui sont des livres extraordinaires. De toute manière, je tiens Julien Gracq pour un des plus grands écrivains du XXe siècle.
Mais alors, du coup, comment est-ce que ça mature? Mais en fait, j'ai du coup directement sauté plusieurs chapitres. Mais donc, vous avez passé votre bac, vous avez fait une classe préparatoire, vous avez finalement intégré Saint-Cyr. Et du coup, quand il s'est agi, disons, de choisir plus le métier, mais la voie à l'intérieur de ce métier, c'est-à-dire devenir quoi, aller dans quelle spécialité, comment est-ce que ça vous est venu? Comment est-ce que vous avez choisi ce que vous vouliez faire? Alors, je vais le dire tout de suite, vous êtes engagé donc dans les troupes de marine, héritière des troupes coloniales, et puis plus particulièrement dans la spécialité cavalerie, donc les blindés au sein de ces troupes de marine. Donc, d'ailleurs, peut-être que c'est un hasard, j'en sais rien, mais comment est-ce que vous avez fait ce choix à l'intérieur de la carrière ensuite?
Honnêtement, ça n'a jamais été un hasard, pas plus d'ailleurs que ma vocation militaire, dont d'ailleurs, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai un peu douté quand j'étais en terminale, parce que là, au moment de sauter l'obstacle et d'entrer en corniche, en classe préparatoire à Saint-Cyr, j'avais d'autres possibilités qui s'ouvraient à moi. J'avais des camarades qui voulaient devenir avocats, d'autres journalistes qui posaient leur candidature à Sciences Po. Donc j'étais tenté un peu par autre chose. Et puis, je suis resté fidèle. Pourquoi Saint-Cyr d'ailleurs plutôt que Naval ou que Salon? Pour une raison très simple.
Alors, c'est Salon, rappelons, c'est l'école de l'air.
L'école de l'air, oui, bien sûr. Tout simplement parce que j'étais littéraire, profondément littéraire, et que même si j'avais passé un bac scientifique, en réalité, j'avais aucune envie de faire des maths et de la physique à haute dose. Et donc, tout naturellement, je me dirigeais vers le concours qui me paraissait le plus conforme à mes goûts, en tout cas. Et à mes capacités.
Oui, mais cela dit, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs voies, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a plusieurs voies aujourd'hui, mais les concours d'école d'officiers, les concours militaires d'une manière générale, ont quand même une très forte dose scientifique aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque ou s'il y avait d'autres.
Non, il y avait honnêtement, le niveau en maths et physique du concours littéraire de Saint-Cyr était du niveau sciencex, c'est-à-dire ES aujourd'hui, quoi, si je puis dire. Je crois que c'est ça. Donc c'était un niveau qui était tout à fait abordable.
Pour tout vous dire,
voilà, mais c'était pas. Non, l'essentiel, c'était. Moi, j'étais en section histoire et géographie. L'essentiel, c'était bien effectivement l'histoire et la géographie. Bon, voilà. Donc je suis rentré à Couët-Quidan, effectivement, et je ne parle pas du choc que c'était pour quelqu'un qui vivait d'un milieu totalement civil, parce qu'en réalité, même si mon père avait des frères officiers, le milieu dans lequel j'ai vécu était totalement civil. J'ai jamais étudié dans un collège militaire. Donc j'ai vraiment débarqué, si je puis dire, dans un monde stupéfiant quand on est du civil.
Mais alors c'est intéressant parce qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps avec le général d'Estrémo qui lui venait d'une famille de grands militaires. Mais du coup c'est intéressant de prendre la chose à l'envers de la part de quelqu'un qui n'était pas habitué de ça, de ses codes, etc. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir... pas un temps de retard, mais en tout cas d'avoir un retard peut-être culturel à rattraper sur être familier de l'institution, des différents régiments, de leurs histoires, ou même familier de comment ça fonctionne, l'armée. Est-ce que vous avez eu l'impression de devoir mettre les bouchées doubles en arrivant à Saint-Cyr par rapport à tous ceux qui avaient beaucoup d'officiers dans leur famille directement ?
J'ai eu pendant plusieurs mois le sentiment d'être complètement décalé par rapport à ce monde-là. Il faut dire que Couette-Quidan, à l'époque, Saint-Cyr, n'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que la discipline était extrêmement formelle, fondée essentiellement sur les sanctions. Donc c'était un système qui était très répressif à la manière de la fabrique des officiers en Allemagne. Et ça, j'avais de la peine, honnêtement. Et puis, je découvrais aussi tous les aspects physiques de ce métier qui m'étaient un peu inconnus. Je veux dire, j'étais sportif, mais par exemple, je n'étais pas du tout habitué au froid. Et avoir froid, pour moi, ça a été la grande découverte de mes premières années militaires. Voilà. Alors, pourquoi les troupes de marine ? C'était pas pour échapper au froid. C'était parce que les troupes de marine, à une période où les guerres de décolonisation étaient terminées, depuis peu d'ailleurs, mais la seule arme dans laquelle il me semblait y avoir encore une part d'aventure, c'était les troupes de marine. C'est-à-dire des troupes qui étaient appelées à intervenir en priorité, en Afrique notamment, et à servir aussi en Afrique ou dans les départements et territoires d'outre-mer.
Donc c'était... Pour chasser un peu le froid quand même.
Oui, il y avait un peu pour chasser le froid, mais c'était, l'essentiel c'était quand même pour moi.
Vous voulez dire par opposition,
la recherche d'autre chose.
Oui, c'est ça, par opposition à des troupes, des régiments qui étaient peut-être en Allemagne. Enfin bon, il y avait plein d'endroits où on pouvait être, et les troupes de marine paraissaient être un corps potentiellement qui partait en... Ce qu'on appelait peut-être pas encore les OPEX à l'époque, mais en opération, quoi.
Oui, il y avait quand même peu d'opérations. Par contre, ce qu'il y avait, de nombreux séjours en Afrique. Moi, j'ai passé 6 ans en Afrique, si vous voulez, que je ne regrette pas, qui sont parmi les années les plus passionnantes et les plus heureuses que j'ai connues. Et pourquoi la spécialité blindée dans les troupes de marine ? Je vais vous dire tout simplement parce que pendant 2 ans, j'avais fait du combat d'infanterie à Couette-Quidan, qui m'avait intéressé, mais qui ne me posait pas de problème physique. Mais je trouvais quand même que, si vous voulez, pour une demi-heure de combat, marcher pendant 10 heures ou 15 heures ou 20 heures, c'était quand même assez fastidieux. Ce que j'ai aimé beaucoup et que j'aime toujours d'ailleurs dans le métier de l'arme blindée, c'est la vitesse. C'est la vitesse, les décisions très rapides qu'on doit prendre, la surprise permanente pour soi et pour l'autre. Voilà, c'est ça qui est terriblement excitant.
C'est amusant parce que c'est déjà exactement ce que disait le général d'Estrémont. Enfin, alors moi, je suis jamais monté dans un blindé, donc j'en sais rien. Mais en même temps, quand vous le dites comme ça, forcément, ça appelle à, disons, la filiation du mot de cavalerie, quoi. C'est-à-dire le fait que les blindés aient repris l'appellation de cavalerie, on se dit qu'il y a une cohérence, quoi, dans l'idée, dans l'image et peut-être dans la pratique du combat qui s'y fait par rapport à l'époque de la cavalerie à cheval.
Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il y a une vraie filiation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même si les chars sont nés dans l'infanterie, parce que en 1917, quand on a commencé à avoir les premiers chars français pendant la Grande Guerre, ils appartenaient à l'infanterie. Et ils servaient d'ailleurs uniquement à l'accompagnement de l'infanterie. Puis on s'est rendu compte après qu'avec les blindés, comme les Allemands d'ailleurs l'avaient très bien compris, Guderian en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale, les blindés pouvaient faire autre chose que de l'accompagnement à l'infanterie. Et à ce moment-là, on a basculé l'ensemble des moyens de l'arme blindée vers l'école d'application de la cavalerie à Saumur. Et effectivement, l'arme blindée a pris beaucoup de tradition de la cavalerie et repris cet élan qui est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé dans le combat blindé.
Mais alors, justement, à la lumière de cette sorte de non-familiarité avec l'institution dans son ensemble que vous nous expliquiez, j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous imaginiez de la carrière d'officier à ce moment-là ? Ce que je veux dire, c'est que, bon, on va en reparler, mais après une longue carrière opérationnelle, vous avez passé beaucoup de temps dans des états-majors, puis à proximité du pouvoir politique, ce qui est, bon, évidemment, la manière dont ça se passe pour accéder à des fonctions aussi hautes que celles que vous avez occupées. Et on reviendra dessus, mais il est assez clair que ça vous a beaucoup intéressé, tout ça, ce monde, cet échelon-là décisionnaire. Donc ma question, c'est, est-ce qu'à l'époque, vous saviez que c'était ça, ou en tout cas que c'était aussi ça qui vous intéressait? Ou est-ce que c'était plus flou, ou est-ce que vous rêviez au contraire simplement de faire manœuvrer des blindés en Afrique ?
Alors pour être franc avec vous, je crois que quand je suis rentré dans cette école, je ne voyais pas de carrière. Je veux dire, ce que je voyais, c'était les premières années, lieutenant et capitaine. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'était honnêtement, à l'époque, ça a changé, heureusement. Mais à l'époque, c'était vraiment ce à quoi on nous préparait. Il faut se dire que les générations précédentes partaient très vite combattre en Indochine ou en Algérie. Donc je veux dire, il n'y avait pas encore le souci, même à Couette-Quidan, même à Saint-Cyr, il n'y avait pas encore le souci de nous préparer à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur et donc nous préparer à ce travail d'état-major et à la complexité des situations et des métiers d'ailleurs successifs qu'on devrait exercer. Alors... Moi, j'envisageais pas les choses, effectivement, au-delà du commandement d'un escadron, comme capitaine. Et donc, le reste est venu de surcroît. Pour être honnête, d'ailleurs, je me suis jamais projeté à long terme, dans toute ma vie, pendant toute ma vie militaire. Je n'ai jamais regardé qu'une chose, c'était, à échéance d'un an ou deux, le poste suivant que j'occuperais. Voilà. Et puis, je me suis posé la question à un certain moment de savoir si je restais ou si je partais.
De l'armée.
De l'armée, bien sûr, oui. De l'armée. Et si je n'avais pas eu chaque fois des postes qui m'attiraient parce qu'ils étaient différents, ils appelaient, comment dirais-je, à l'acquisition de savoir-faire particuliers, au développement de connaissances nouvelles, je crois qu'à un moment ou à un autre, j'aurais changé de métier, c'est vrai. Mais j'ai toujours eu... J'ai eu la chance d'avoir toujours un poste, même quand j'occupais un poste un peu décevant, le poste suivant suffisait à me raccrocher et à me donner envie de continuer. Voilà. Et ça a duré comme ça, c'est allé comme ça jusqu'au bout.
Et alors, justement, ce moment initial, initiatique peut-être, ce moment de lieutenant, de capitaine, c'était quoi votre... formulons ça différemment. Qu'est-ce que vous appelleriez votre baptême du feu ?
Un baptême du feu, au vrai sens du mot, il a été très tardif pour moi. Très tardif.
Mais c'est pour ça que je le posais comme ça, c'est que prenez-le ouais. Comme vous voulez, ça peut être aussi tout à fait symbolique. Mais qu'est-ce que vous considérez comme votre initiation au feu, quoi ?
Initiation au feu, elle était, comme je vous disais, c'est venu très tard. C'est venu très tard, pourquoi ? Parce que, comme lieutenant et comme capitaine, comme la majorité des officiers de ma génération, nous étions avant tout fixés sur la ligne bleue des Vosges et sur la guerre froide, si je puis dire, la menace éventuelle d'une invasion du pacte de Varsovie. Même quand j'étais en Afrique, la question ne s'est pas directement posée. Elle a failli se poser quand j'étais au Sénégal, comme lieutenant. Je commandais un peloton d'automitrailleuse. Et on nous a mis en alerte pour renforcer le régiment du Tchad, notre régiment français au Tchad, parce que la rébellion était devenue très forte et à l'époque, le général de Gaulle envisageait une possible intervention militaire française. Et donc, c'est là, voilà, là, on a frôlé, si je puis dire, l'engagement, puis finalement, ça a été démonté, rien ne s'est passé chez nous. Au Tchad, ça s'est un peu agité, mais pas chez nous.
Donc, vous avez passé beaucoup de temps à imaginer comment détruire des T-72, des chars soviétiques, mais au final, à tirer tardivement des coups de feu, quoi.
Ouais, les coups de feu, j'en ai jamais directement tiré. Mon première expérience du feu a été quand j'étais au service d'information et de relations publiques des armées, comme officier de presse, attaché de presse, si on veut, et j'ai accompagné des journalistes au Tchad, en pleine guerre civile, à N'Djamena.
Donc quelle année à peu près ?
En 1980. Et j'étais un jeune commandant à l'époque. Et là, j'ai emmené des journalistes tous les jours avec moi dans la fournaise, voilà, dans la fournaise inter-tchadienne. Et j'avais un véhicule civil qui avait été réquisitionné pour que je puisse emmener des journalistes avec moi. Et quand j'ai quitté le Tchad, après 2 mois, j'ai compté les impacts sur ma voiture. Il y avait 23 impacts. 23 impacts. C'est dire que ça avait chauffé quelquefois.
Mais alors, du coup, je veux dire, est-ce que vous en êtes content ou est-ce que vous en êtes frustré ? C'est-à-dire, c'est bien de ne pas tirer des obus de blindés sur d'autres gens. Dans l'absolu, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Mais en même temps, quand on passe tant de temps, tant de mois, tant d'années à se préparer à le faire, à imaginer toutes les configurations possibles où le faire et à essayer de s'assurer une supériorité opérationnelle. Est-ce qu'il y a peut-être une sorte de frustration latente de jamais avoir être passé de l'entraînement, aussi bon soit-il, à la pratique.
Alors, si vous, on a des sentiments très mélangés, il ne faut pas s'y tromper. Il y a une forme de frustration, oui, je le pense, c'est vrai, que j'ai certainement un peu ressenti, surtout quand notre intervention au Tchad a été annulée. Il y a une forme de frustration. Il y a aussi une forme de soulagement, il faut être clair, parce que quand on a une femme et des jeunes enfants, ce qui était mon cas, on se dit que ça serait quand même difficile pour eux si on ne revenait pas. Et puis, il y a une forme de satisfaction, parce que ça veut dire aussi, si on n'est pas engagé dans des coups durs, ça veut dire aussi que finalement, grosso modo, la protection des Français est assurée correctement et qu'il n'y a pas de menace brutale sur nos compatriotes et que notre mission est correctement remplie, notre mission de dissuasion. Donc je veux dire que c'est un mélange des trois, de frustration, de soulagement et aussi de satisfaction de savoir qu'on fait bien son boulot.
Alors, ensuite, vous êtes passé par l'école de guerre en 1983. Alors, je pense que les auditeurs savent un peu que c'est la grande bifurcation. Alors, on en avait parlé notamment avec l'amiral Finas quand il était venu dans le podcast l'an dernier, à l'époque où il en était encore le directeur. C'est vraiment le concours de milieu de carrière qui détermine les officiers qui sont voués à de très hautes fonctions et ceux qui sont pas bloqués, mais en tout cas qui sont pas engagés sur ce qu'on appelle parfois la piste aux étoiles, quoi. Et par ailleurs, on a un partenariat régulier avec l'école de guerre où les officiers viennent souvent raconter des souvenirs de vie en uniforme au micro. Mais j'aimerais savoir quels souvenirs vous en avez gardé, vous, de ce passage à l'école de guerre. La raison pour laquelle je vous demande ça, c'est que j'ai cru percevoir assez régulièrement dans certains de vos écrits ou de vos entretiens une sorte de frustration sur cette institution, je me trompe peut-être, hein, mais sur cette institution et sur ce qu'elle produit chez les officiers, sur la manière dont elle fonctionne au sein de l'institution militaire au sens large. Donc j'aimerais savoir ce que ça recouvre exactement, ce sentiment, et d'où ça vous vient, dans votre expérience personnelle.
Oui, alors, moi j'ai été dans des circonstances un peu particulières parce que j'avais fait ce qu'on appelait un brevet technique, enfin à l'époque c'était plus compliqué que ça, mais disons que je venais de passer 2 ans à Sciences Po et à la Sorbonne, donc je veux dire j'arrivais d'un univers étudiant civil pour débarquer dans un univers d'étudiant militaire. Et inévitablement, je veux dire, on était tenté de faire la comparaison sur la nature des travaux qu'on y faisait, sur le niveau des intervenants, etc., etc. Bon. Malgré tout, moi, j'ai gardé plutôt un bon souvenir de mes 2 années à l'école de guerre. Objectivement, un bon souvenir. Je trouvais que ça aurait pu être un peu plus dense, quelquefois, un peu plus excitant dans différents domaines, surtout dans le domaine intellectuel. Mais j'en ai pas gardé un mauvais souvenir. Il y avait encore à l'époque, je crois, un équilibre entre l'apprentissage des responsabilités à un haut niveau dans la structure militaire en opération, d'un côté, et de l'autre, l'ouverture au monde, l'ouverture à la connaissance à la fois de l'institution militaire et surtout de la société française, de notre environnement national, international, etc. Voilà. Après, j'ai eu le sentiment, quand j'étais chef d'état-major des armées, de ne pas réussir à faire bouger les choses. Pourquoi est-ce que j'avais ce sentiment ? Pour une raison que j'avais plus ou moins ressentie quand j'étais moi-même stagiaire à l'école de guerre, sur la qualité très inégale des instructeurs qui s'y trouvaient. Ayant fréquenté un peu l'armée britannique et surtout l'armée américaine, ce que j'avais constaté chez eux, c'était l'effort qu'ils faisaient pour sélectionner les meilleurs comme instructeurs dans leurs écoles de guerre. Et c'est ça que j'ai échoué à mettre en place quand j'étais chef d'état-major des armées.
C'est-à-dire que à l'école de guerre, il y avait les meilleurs élèves, mais pas forcément les meilleurs instructeurs, alors que dans les armées anglo-saxonnes, c'était une institution d'excellence des deux côtés de la barrière, quoi, c'est ça ?
Oui, au moins du côté des instructeurs, après le reste. Bon, oui, c'est ça, j'ai pas réussi. D'abord, l'équilibre entre, que j'évoquais tout à l'heure, entre les études civiles, entre guillemets, et la partie militaire opérationnelle, me paraissait pas toujours très satisfaisant, je le chanter à travers les contacts que je pouvais avoir avec certains élèves. Mais surtout, il y avait une très grande frustration chez beaucoup de stagiaires parce qu'ils n'avaient pas l'impression de pouvoir échanger suffisamment et progresser au contact de leurs instructeurs. Et ça venait du fait que les armées donnaient la priorité dans les affectations de leurs meilleurs officiers, donnaient la priorité à leurs états-majors propres d'armée. Je dois dire que j'étais obligé de me battre aussi pour que, à l'état-major des armées, qui était mon état-major quand j'étais SEMA, à l'état-major des armées, on ne mette pas non plus d'officiers de deuxième rang, de deuxième niveau.
Mais c'est une problématique qui est passionnante, c'est toute la problématique de l'interarme, c'est-à-dire c'est une grande armée et trois armées en même temps, et comment on fait coopérer trois armées qui ont... Ils ont un objectif commun, mais des motivations potentiellement divergentes.
Mais vous avez tout à fait raison. Je veux dire, j'ai au moins la moitié de ma carrière en interarmée. Donc, je veux dire, je me sens profondément interarmée. Quand j'étais chef d'état-major des armées, quand un officier venait me voir pour me parler d'un problème, j'étais incapable de dire ensuite à quelle armée il appartenait. Pour moi, il n'existait que l'homme qui m'avait parlé, qui m'avait posé un problème, etc. Je ne faisais absolument aucune différence entre les officiers, quelle que soit leur couleur d'uniforme. À l'école de guerre, les chefs d'état-major de l'époque ne voulaient pas mettre leurs premiers éléments. Ils considéraient que c'était un investissement insuffisant par rapport à leur priorité, qui était leur armée. Voilà, donc leur état-major d'armée. Et ça, c'était en soi très dommageable on se rend compte de plus en plus aujourd'hui en France que l'éducation et la formation des jeunes est l'élément fondamental si on veut préparer correctement l'avenir. Et on sait que c'est une des faiblesses aujourd'hui du système français. Je veux dire, il n'y a qu'à voir tous les classements où nous nous retrouvons au niveau international. Je crois que dans les armées, l'investissement doit être fait aussi au plus haut niveau, non seulement dans les écoles de formation initiale, c'est-à-dire Saint-Cyr, Naval, le Salon de Provence, mais aussi
par ailleurs les écoles de sous-officiers, enfin d'une manière générale toutes les institutions d'enseignement militaire. Alors ensuite vous avez vous êtes passé par donc de l'interarmée qui n'était pas vraiment donc à l'école de guerre, mais ensuite vous êtes retourné dans l'armée de terre, dans les troupes de marine, et vous avez donc continué votre carrière au sein du RICM, le Régiment d'infanterie chars de marine, que vous avez fini par commander. Alors là, on est à la fin des années 1980. On a déjà parlé de ce régiment un peu avec le général d'Estrémaux il y a quelques semaines, qu'il a commandé plus d'une décennie après vous. Mais on peut peut-être en redire un mot, parce que c'est un régiment quand même particulier, qui est hérité du Régiment d'infanterie coloniale du Maroc, dont il a gardé de manière intéressante l'acronyme. C'est réputé aussi être le régiment le plus décoré de l'armée française. Donc, pourquoi ce régiment, si tant est que vous l'avez choisi d'ailleurs? Et bon, qu'est-ce que ça a représenté, le RICM, dans votre carrière opérationnelle, peut-être symboliquement au-delà?
Le RICM, c'était pour moi, j'y ai passé 4 ans seulement, j'aurais volontiers passé davantage. Le hasard des mutations a fait que j'ai pas pu y servir plus de 4 ans. Je ne devrais pas dire ça, ayant eu la chance d'être chef d'état-major des armées, mais c'était les 4 années les plus heureuses de ma vie professionnelle. C'est toujours un régiment exceptionnel. Il attire les meilleurs, si je puis dire. Ou quand il n'attire pas les meilleurs, ceux qui sont moins bons font tout pour parvenir au niveau des meilleurs. Parce que c'est un régiment qui est porté par son histoire, ses traditions, qui sont exceptionnelles. Vous savez, c'est un régiment tout jeune. C'est un régiment qui est né en 1915 par rapport à beaucoup de régiments de nos armées. C'est tout jeune. Bon. Et malgré ça, je veux dire, c'est un régiment qui aligne, je ne sais même plus combien de citations il a à l'heure actuelle, parce qu'il en a encore eu plusieurs fois dans les opérations extérieures. Mais enfin, je veux dire...
Mais alors justement, c'est intéressant. Au quotidien, comment est-ce que ça joue, cette histoire? C'est-à-dire, quand on est au RICM, comment est-ce que ça se manifeste? Enfin, c'est quoi? C'est une ambiance? C'est une discipline? C'est une exigence? Mais tout ça, c'est difficile à quantifier, quoi. C'est un peu impalpable. Mais puisque vous êtes passé par d'autres régiments et puisque vous avez vu le tout, comment est-ce que le passé s'imprègne au quotidien sur un régiment?
Je crois, et ça, si vous voulez, c'est le souvenir que j'ai de l'année où j'ai servi sous les ordres du général Bijard. Je crois que la meilleure troupe est la troupe qui veut toujours être la meilleure. Chez RICM, on savait que, par tradition, il fallait toujours être le premier, toujours être le meilleur, toujours gagner quand il y avait des compétitions ou des contrôles nationaux, etc. Il n'y avait pas de, deuxième place pour le régiment, je veux dire. Et tous, du colonel jusqu'au dernier marsouin, jusqu'au dernier soldat, tous se défonçaient pour arriver et pour gagner. Et c'était cet esprit-là, qui était l'esprit Bijard, effectivement. C'était la conviction, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient les meilleurs, il fallait qu'ils le soient. Voilà. Il fallait qu'ils le soient. Et cette volonté-là. Et alors, il y avait autre chose que j'ai rarement rencontré, en dehors du RICM, mais quand même, qui existe largement, hein, il ne faut pas s'y tromper. C'était un régiment où on avait une forme de commandement très humaine. On n'avait pas besoin de les bousculer, nos marsouins. On n'avait pas besoin de bousculer même nos capitaines, nos lieutenants, etc., nos sous-officiers. Je veux dire, ils donnaient tout de même. Et donc, le commandement était très simple, très chaleureux, très direct. Et c'était un commandement par adhésion.
Ça, il n'y avait pas besoin d'en imposer par la formalité, c'est ça ?
Non, il y avait extrêmement peu de punitions dans ce régiment. C'était un système d'adhésion. On adhérait à ce régiment, on adhérait à cette notion qu'on devait toujours être les meilleurs. Il y avait une forme d'obéissance et de commandement qui se faisait de manière très naturelle. Alors ça a un peu bougé, évidemment, il y avait des chefs de corps qui étaient plus rigides que d'autres, mais globalement, grâce aux traditions du régiment, globalement, on a toujours maintenu cette forme de commandement très humaine.
Mais alors, du coup, c'est un peu la même question, mais dit différemment. Est-ce que c'est, puisque après vous êtes évidemment monté beaucoup et que vous avez commandé bien au-delà du RSM, est-ce que ça peut voyager ? Est-ce que c'est exportable ? Est-ce que ça... Enfin, voilà, vous avez connu le RSM, on a bien compris que ça vous avait beaucoup plu, mais du coup, est-ce qu'on peut essayer de transférer ce genre de choses à d'autres régiments, plus récents, plus vieux ou avec d'autres histoires ? Ou est-ce que, bon, bah, dans une certaine mesure, on est chaque corps reste dépendant de, disons, appelons ça sa culture, parce que c'est très large, c'est vraiment très large.
Oui, c'est exportable, bien sûr que oui. Tout est exportable. Et d'ailleurs, il suffit de voir l'évolution des textes sur le commandement dans les trois armées pour se rendre compte qu'on a pris conscience petit à petit que cette forme de commandement qui était pratiquée dans quelques unités, en réalité, pouvait s'appliquer à l'ensemble. Ça ne supporte pas, évidemment, d'avoir des chefs médiocres. C'est-à-dire qu'un chef médiocre est incapable de s'imposer, d'obtenir l'adhésion de ses subordonnés. Si on le sait. Et à ce moment-là, il lui reste plus que le recours classique à une discipline bête, stricte, répressive. Donc, c'est exportable, à condition d'encadrer de très près et d'aider tous ceux qui ne sont pas naturellement capables de commander de cette manière-là. Voilà. Mais je crois que l'évolution des textes dans toutes les armées montre que petit à petit, une forme de commandement beaucoup plus adaptée d'ailleurs à l'évolution de notre société, pour être franc, un commandement humain, direct, d'adhésion, est préférable à un commandement répressif. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de discipline. J'ai souffert de la discipline à Couette-Quidon, j'ai été très souvent puni quand j'étais élève, mais j'ai appris à obéir là-bas. Je crois que c'est Sartre, je crois, dans Huit Clos, qui fait dire à un de ses personnages, pour savoir commander, il faut d'abord avoir appris à obéir. Voilà. Donc je crois que la discipline reste un besoin fondamental pour les armées, parce que sinon on risque la catastrophe en opération. Mais la discipline, elle peut s'obtenir par l'exemple, par... une très grande attention à ces hommes. C'est ça qui m'a marqué beaucoup à RICM, vous voyez, c'est que c'était un vieux régiment d'engagés, c'était un des premiers régiments qui a été professionnalisé en France. Et quand j'interrogeais mes capitaines, parce que j'avais des échos à droite et à gauche, ne serait-ce que par mon épouse d'ailleurs, des difficultés matérielles ou de santé qu'avaient tel ou tel de leurs soldats ou leur famille, je veux dire, mes capitaines savaient toujours. Ils savaient toujours, ils savaient ce qui se passait chez eux. Ils savaient les problèmes qu'avait le caporal machin dont l'épouse avait un cancer, etc. Et je veux dire, et c'est cette attention extrême aux hommes qui permettait d'obtenir leur adhésion.
Alors que c'est pas toujours le cas.
Non, c'est pas toujours le cas parce que c'est plus facile le soir de poser son képi et d'oublier et de pas se préoccuper de des états d'âme supposés tels. On appelle ça des états d'âme pour simplifier quand on veut pas se poser de questions. Mais de
mais soit dit en passant, des soucis c'est pas, réels. C'est pas une mauvaise expression pour ce que vous voulez dire état d'âme si on la regarde de près quoi.
Ouais. Voilà, mais je crois que ça a été un changement de culture assez radical entre l'armée d'appelés et l'armée professionnelle. Je veux dire, les appelés étaient là de passage, et bien sûr, leurs soucis personnels devaient être pris en compte, mais en général, ils étaient pris en compte de manière simple, on les mettait en permission. Mais nous, nos engagés, c'était leur métier. Je veux dire, ils restaient avec nous pendant 5 ans, quelquefois 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ces gens-là, on ne pouvait pas les laisser tomber, je veux dire. On ne pouvait pas se contenter de les mettre en permission. Il fallait absolument trouver le moyen de les remettre le mieux possible en situation d'exercer à la fois leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Alors maintenant, on est quand même obligé d'aller un peu vite, mais je voudrais passer à votre arrivée, donc auprès des Ors de la République, puisque c'est le titre de votre ouvrage. Au début des années 1990. Mais c'est donc dans le giron d'une fonction que vous occuperez par la suite, qui est celle de chef d'état-major particulier du président de la République. Alors, peut-être, commençons par là. Expliquez-nous d'abord ce que c'est que cette fonction, ce qu'elle recouvre, parce qu'elle est évidemment beaucoup moins visible que les autres postes de chef d'état-major, et probablement moins connue du grand public, tout en étant paradoxalement beaucoup plus proche du pouvoir, ou en tout cas de la source du pouvoir, qu'est le président. Donc qu'est-ce que c'est que chef d'état-major particulier du président? Et comment est-ce que vous l'avez compris quand vous êtes arrivé, quoi, quand vous vous êtes frotté à cette fonction?
Oui, je l'ai compris parce que j'ai fréquenté un petit peu l'état-major particulier avant d'être sélectionné, si je puis dire, par le général Queneau, qui était le chef d'état-major particulier de François Mitterrand à l'époque, sélectionné pour cette fonction. Donc je l'ai connu.
Cette fonction qui était adjoint.
Adjointaire. Voilà, parce que le chef d'état-major particulier. Quand on dit état-major, il faut être raisonnable. État-major, c'était 5 officiers. Bon, c'est une toute petite chose quand on pense que l'état-major des armées, par exemple, à l'époque, moi j'avais, je ne me souviens plus combien, peut-être 400 officiers. Bon, c'était un état-major croupion. Le chef état-major particulier, il a deux fonctions. Il est d'une part le conseiller militaire du président de la République au jour le jour, et il est d'autre part celui qui transmet les ordres du président de la République, notamment pour le feu nucléaire, si jamais la dissuasion est mise en échec, et celui qui rend compte au président de la République de la manière dont ces ordres sont exécutés. Voilà. Bon, parce qu'en France, le président de la République est le chef des armées. C'est une fonction très marquante, d'ailleurs, mais on pourra y revenir après. Je veux dire par là que le président de la République, chef des armées au sens littéral du terme, ça ne se retrouve aujourd'hui que aux États-Unis, pour prendre une démocratie, ou en Russie. Bon. Le président de la République dispose en permanence auprès de lui, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle en 1958, le président de la République dispose donc de ce chef d'état-major particulier, à qui il transmet ses ordres, qui lui rend compte, et qui, au jour le jour, l'informe de l'évolution des menaces, du déroulement des opérations, etc., et qui prépare ses décisions, mais qui prépare ses décisions à partir des éléments que lui donne le chef d'état-major des armées.
Mais donc c'est une sorte de truchement au sens littéral d'interprète, quoi, entre le président et le monde militaire.
Voilà, c'est un interprète entre le président. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas une relation aussi, qui peut être plus ou moins directe, entre le président de la République et le chef d'état-major des armées. Bon, c'est pour ça que notre système est un peu compliqué. En réalité, depuis déjà plusieurs années, les contacts directs entre le président de la République et le chef d'état-major des armées sont limités à ces conseils de défense qui ont lieu régulièrement, à l'Élysée, toutes les semaines d'ailleurs, en fait, en pratique, et qui permettent de faire le point sur les opérations présentes ou à venir. Mais alors le chef de l'état-major particulier...
C'est-à-dire le chef d'état-major, on en reparlera évidemment, mais le chef d'état-major des armées, il s'occupe de la boutique, quoi, il s'occupe de l'institution, et le chef d'état-major particulier, il s'assure de faire le lien entre la maison et l'office du président de la République. Quoi.
Voilà, il est un lien, mais c'est un lien qui n'est pas limité aux armées. C'est-à-dire que le chef d'état-major particulier, quand il informe le président, quand il lui propose des options, tient compte aussi de tout ce qui vient de l'ensemble du gouvernement. C'est-à-dire qu'il tient compte de l'avis du Premier ministre quand il en a un, qu'il tient compte de l'avis du Quai d'Orsay, en particulier de l'avis du ministre de l'Intérieur, de l'avis du ministre des Armées ou du ministre de la Défense. Bien sûr, il ne se limite pas en réalité, il ne limite pas son éventail d'interprétation aux armées. Et c'est finalement ce qui distingue le plus du chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major des armées, lui, est un homme responsable. C'est lui, ensuite, qui commandera les armées en opération. Mais le chef d'état-major particulier n'a aucune responsabilité de commandement. Absolument aucune. Mais lui va proposer au président de la République des options en prenant en compte ce qui vient aussi d'autres sources que les armées. Voilà. Donc il a une certaine latitude par rapport au chef d'état-major des armées, bien sûr, et il peut avoir, comme vous le devinez, comme tous les conseillers de l'Élysée, bien sûr, il peut avoir une influence sur les décisions du président de la République extrêmement variable.
Oui, mais alors justement, c'est intéressant parce que dans votre ouvrage Les Heures de la République, vous pénétrez à l'Élysée quasiment par une anecdote qui est amusante, qui est celle, disons, de difficultés liées à votre nomination d'adjoint, puisque, alors, je vais vous laisser le raconter, mais bon, globalement, le président de la République, vous ne voulez pas signer le papier, quoi. Mais allez-y, racontez-nous comment ça s'est passé, disons, ce premier contact un peu difficile avec la présidence de la République.
C'était effectivement une expérience quand même étonnante, parce que c'était ma découverte des ambiguïtés du monde politique. il s'est passé plus d'un mois, après mon arrivée à l'état-major particulier, plus d'un mois, sans que je sois nommé par décret, parce qu'on est nommé par décret à la présidence de la République, sans que je sois nommé par décret signé par le président de la République. Et pourtant, je veux dire, mon chef s'assurait tous les jours que la note assignée par le décret assigné par le président de la République était bien sur son bureau. Oui, ce projet de décret était bien sur le bureau du président, mais il ne signait pas.
Il manquait le stylo de François Mitterrand dessus. Quoi.
Voilà, exactement. Donc on attendait, puis je me disais, moi, au bout d'un mois, je me disais, bon, ben, il n'y a pas de problème, c'est que le président ne veut pas de moi pour une raison que j'ignore. Et donc, il va dire un jour ou l'autre à mon chef, le général Quesnot, bon, ben, votre Bintéjal ne m'intéresse pas, donc trouvez-moi quelqu'un d'autre. Et j'imaginais mon retour dans la structure militaire ayant été recalé par le président de la République, j'avoue que ça me faisait un peu froid dans le dos. Et puis un jour, je suis allé voir un des autres conseillers du président de la République, qui était un général à la retraite, le général Vouny, un ancien de l'aérospatial, qui lui était son conseiller stratégique, je dirais, surtout lié aux questions nucléaires. Bon. Et c'était surtout son principal partenaire au golf. C'était un très bon joueur de golf et il jouait avec le président de la République une demi-journée par semaine.
Et c'est drôle, mais c'est très important. On va en reparler tout de suite, mais c'est la présence dans le quotidien du président et on va voir que c'est extrêmement important. Mais...
Alors, le général Vouny, quand je suis allé me présenter, pas tout de suite, donc au bout de 3 semaines à peu près, ou un mois, je ne sais plus, m'a dit à propos, vous savez, pourquoi le président de la République ne veut pas signer votre nomination ? Je dis non, je m'interroge de plus en plus même. Et il m'a dit, bah, c'est tout simple, parce que il estime que votre chef, le général Quesnot, a fait une mauvaise manière au général Varré, qui était à l'époque, qui était l'ancien chef de la mission militaire de coopération, en ne lui donnant pas une fonction digne de ses qualités et de ses aspirations. Et donc, il a décidé, à titre de rétorsion, de ne pas signer votre décret de nomination.
Mais là où c'est fascinant, c'est bon, alors on a bien compris que c'était désagréable de se faire prendre entre le marteau et l'enclume quand on est colonel, j'imagine, à l'époque.
Oui, j'étais colonel, oui.
Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on voit, et vous nous avez expliqué que tout le pouvoir du chef d'état-major particulier vient du président, et pourtant, ce que cette anecdote révèle, c'est qu'il peut quand même y avoir, même pas de la friture sur la ligne, il peut y avoir un conflit ouvert entre le président et son chef d'état-major particulier. C'est-à-dire, c'est possible, quoi. C'est pas le... enfin le chef d'état-major particulier et le militaire du prince en quelque sorte. Et pourtant, il peut y avoir quand même un conflit ouvert pour quelqu'un qui dépend aussi directement du pouvoir politique.
Oui, c'est vrai, il peut y avoir, bien sûr. Mais ça, c'était lié quand même, c'était un peu exceptionnel. Je crois que c'était quand même lié vraiment à la personnalité de François Mitterrand, qui est une personnalité extrêmement complexe. De la même manière que François Mitterrand n'avait jamais dit à François de Grossouvre qu'il ne voulait plus le voir et qu'il l'insupportait.
François de Grossouvre, rappelons, c'est son conseiller, son très proche,
oui, qui s'est suicidé avait été dans son conseiller pour le renseignement.
Qui s'est suicidé dans son bureau de l'Élysée.
Et s'est suicidé quand j'étais là-bas, d'ailleurs, oui. Et s'est suicidé dans son bureau. Et François de Grossouvre n'a jamais su exactement ce que le président lui reprochait. Parce que François Mitterrand ne lui a pas dit. Parce qu'il ne le disait pas toujours. Parce qu'il laissait les choses glisser jusqu'à ce qu'elles se règlent par elles-mêmes. Voilà, alors de manière pratique et concrète, donc il y avait effectivement ce désaccord non dit entre le président et son chef d'état-major particulier, et j'en étais directement la victime. Voilà, c'est arrangé tout de suite, parce que quand j'ai dit ça au général Queneau, le général Queneau a immédiatement trouvé un poste très intéressant pour le général Varré, et il a donné tout de suite sa nomination assignée par le président. Le président a signé dans la foulée ma nomination à l'état-major particulier. Donc l'affaire a été réglée très vite. Et l'affaire aurait pu se régler encore plus vite si le président avait dit un mot au général Queneau en lui disant « Je veux que vous trouviez quelque chose pour le général Varré ». Il ne lui a pas dit.
Pour ça, c'était les phénomènes de cour qui étaient propres à François Mitterrand. Enfin, c'est très intéressant par ailleurs. Alors, puisqu'on a maintenant pénétré directement dans cet espace de l'Élysée, comme vous le faites donc, dans cet ouvrage, attardons-nous-y un peu, parce que, notamment parce que je voudrais parler d'une chose qu'on oublie souvent, mais que vous pointez de manière très frappante, qui est la grande présence des militaires dans l'espace de l'Élysée, pour faire des choses qui sont pas du tout guerrières, c'est-à-dire qui sont des fonctions d'encadrement, de support, de logistique, enfin ça va jusqu'à la cuisine, quoi, dans l'espace de l'Élysée. Mais ça fait donc que le président est en fait entouré de militaires toute la journée, y compris pour un quotidien tout à fait trivial, quoi.
Alors oui, si vous voulez, mais pas toujours en tenue, hein, pour être honnête, parce qu'il y a des maîtres d'hôtel qui viennent des armées, de la marine en général, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs maîtres d'hôtel, et qui sont en civil en permanence. Et puis il y a surtout les gardes républicains qui sont très nombreux et qui occupent beaucoup de fonctions. Les huissiers sont d'anciens gardes républicains. Les gardes républicains, il y a ceux qui assurent des services de garde, d'autres des services de permanence. Il y a les transmissions de l'Élysée qui sont entièrement gérées par des militaires. Et Dieu sait à quel point c'est important pour tous les voyages du président, sans parler, bien sûr, des responsabilités dans le domaine nucléaire ou autre. Mais au service du courrier, il y a toute une partie aussi, il y a toute une branche constituée par des militaires, des officiers ou des sous-officiers qui sont détachés là. Donc il y a des militaires partout. Et finalement, je crois que si le système fonctionne comme ça, c'est parce que la discipline militaire et la rigueur militaire conviennent bien à une maison compliquée comme l'Élysée.
Mais alors du coup, ça renvoie vers une dimension qui est très intéressante, ce qui est que, en fait, les hommes de pouvoir, les hommes politiques, les responsables politiques, ont des attitudes très très différentes, non seulement vis-à-vis des gens qui ont un statut militaire, mais aussi vis-à-vis de l'uniforme. Alors vous faites comme ça un éventail que je vais peut-être vous laisser nous détailler, mais entre Pompidou, entre Giscard d'Estaing, entre Balladur aussi, enfin je vous laisse le dire.
Oui, oh, y a on pourrait multiplier les anecdotes, bien sûr. Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fait une très belle guerre, si je puis dire, je ne sais pas si on a le droit encore de dire quelque chose comme ça, une très belle guerre, une guerre très courageuse.
On l'a rappelé à l'occasion de son décès récent, ouais. Le fait qu'il avait fait partie de la deuxième DB de Leclerc, ce qui... Alors, il y est arrivé en 44, mais bon, il est...
Oui, il avait fait une guerre très courageuse, et il aimait bien l'armée. Et il l'a montré d'ailleurs par des lois de programmation très favorables aux armées. Cet homme-là, qui pourtant était un sommet d'intelligence, on le sait, on a rarement eu des présidents de la République aussi brillants intellectuellement, cet homme-là avait un peu aussi une âme de caporal. C'est indiscutable. Ça m'est un peu triste de
le dire.
Une âme
de caporal, ça veut dire, disciplinaire, quoi.
Exactement, oui. Exactement. Il passait la garde en revue le matin, il prenait des sanctions, il demandait des sanctions régulièrement, quand il n'était pas satisfait de la manière dont tel ou tel garde républicain se présentait sous les armes.
Et donc c'est quoi? C'est les uniformes, c'est la tenue des armes, c'est ça quoi?
Oui, mais en même temps, il avait des relations extrêmement chaleureuses et proches et humaines avec le chef de son état-major particulier. Moi, je me souviens, le général Van Bromerch, qui avait été le chef de son état-major particulier, est mort, et le général Méry, avant lui. Moi, j'étais aux obsèques du général Méry, pas du général Van Bromerch. Mais Valéry Giscard d'Estaing est venu aux obsèques, s'est installé avec la famille, à côté de l'épouse du général Méry. Je veux dire, il était d'une extrême humanité. Donc, je savais qu'il avait eu des relations personnelles fortes avec son chef d'état-major particulier. Donc, vous voyez, c'était pas chez lui du tout un blocage du côté de l'uniforme.
Mais il corrigeait l'ourlet du pantalon quand même.
Oui, c'est ça, oui, il avait tendance. Mais il le faisait aussi avec les civils, si vous voulez. Il allait vérifier le soir, quelquefois, dans les bureaux, qu'il n'y avait pas de documents confidentiels qui traînaient sur les bureaux. Oui. Donc c'était davantage un souci de mise en ordre en permanence qu'autre chose. Par contre, il y en avait d'autres. Alors, moi, j'ai cité ceux que j'ai connus, c'est-à-dire, mais il y en avait beaucoup d'autres. J'ai cité Édouard Balladur, par exemple, qui ne serrait jamais la main de quelqu'un qui portait un uniforme, parce que un uniforme, c'était quelqu'un qui était assimilable à un valet de chambre, si je puis dire, oui, en livrée. C'était un peu ça, dans son esprit.
Quelque part, vous avez un passage où, disons, il y a des gens qui voient pas les militaires, mais qui physiquement ne voient pas les gens qui sont en uniforme, ils font partie du décor, quoi.
C'est vrai, c'était pas le cas de Chirac, Dieu sait. Mais, alors François Mitterrand non plus, hein. François Mitterrand était extrêmement courtois. Et saluait toujours tout le monde, je veux dire, indépendamment. Et pourtant, François Mitterrand n'avait pas du tout de goût pour la chose militaire, mais pas du tout. Il avait un mauvais souvenir de son service militaire. Il avait un souvenir très dur de juin 40. Il a été blessé, décoré, je veux dire, il s'était parfaitement bien comporté. Mais il avait fait le choix, parce qu'il était amoureux à l'époque, de ne pas préparer l'école des élèves officiers de réserve. Et donc, il a fait son service comme deuxième classe. Et puis ensuite, il a grimpé. Et pendant la guerre, il est même arrivé au grade de sergent-chef. Mais je veux dire, il y avait cette frustration de ce grand intellectuel, de cet homme qui avait un amour-propre très développé. Cette frustration de se trouver commandé par des gens qui jugeaient plus médiocres que lui, quoi, bien sûr.
Mais alors, tout ça, cette dimension... disons, cette présence du militaire dans le palais de l'Élysée, ça ouvre vers une question qui est très intéressante, qui est celle de la hiérarchie, qui est celle des étoiles. Je vais en parler tout de suite. Alors, je vais quand même dire, pour rétablir un peu la chronologie, qu'entre-temps, vous avez occupé d'autres fonctions, notamment aux Antilles, entre 1996 et 1999, avant de revenir en tant que CEMP, que chef d'état-major particulier de Jacques Chirac. Mais il y a une dimension qui m'a pas mal intrigué et qui est assez appuyée dans ce livre, comme dans d'autres choses que vous avez écrites, c'est la notion de hiérarchie qui revient régulièrement dans l'espace du palais, et la manière dont le militaire étant lui-même par essence hiérarchisé parce qu'il a un grade et que donc ça le met dans une structure, quoi, et dont le militaire donc s'articule avec ça. Mais d'abord, ce que vous indiquez, c'est intéressant, c'est que ça impressionne, ça en jette un peu quand même pour les non-militaires, l'uniforme. Vous écrivez que quand vous arrivez dans une réunion avec des conseillers civils, ça pèse, quoi, un type qui parle en uniforme.
Alors ça pèse pas tellement à cause de l'uniforme. Même si, parmi les conseillers civils, il y a quand même ce pas qui est extrêmement fort entre les non-généraux et les généraux. C'est-à-dire, à partir du moment où on est général, on est rentré, enfin, dans la caste supérieure des armées, qui est digne d'être considéré par ces énarques, la plupart sont énarques, par ces énarques de haut niveau. Voilà. Tant qu'on n'est pas dans cette caste-là, je veux dire, on compte pas beaucoup. On est presque invisible. Voilà. Et alors,
ensuite, entre un colonel et un caporal, il n'y a pas beaucoup d'écart dans l'esprit d'un conseiller, c'est ça?
Pas beaucoup, non. Pas beaucoup d'écart, effectivement. Alors, le chef d'état-major particulier, c'est encore différent. Lui, parce que lui, le chef de l'état-major particulier, c'est ce qu'avait voulu le général de Gaulle. Il est, dans la hiérarchie interne de l'Élysée, numéro 2. Il était numéro 2, il est devenu numéro 3, bon, depuis le président Macron. Mais ce qui veut dire qu'il se place immédiatement derrière le secrétaire général de l'Élysée. Et ça, c'est, comment dirais-je, une règle qui est extrêmement visible, parce que ça détermine la place qu'on a dans les réunions. Quand j'étais chef de l'état-major particulier de Chirac, quand j'arrivais à une réunion, par exemple, au Quai d'Orsay, j'étais immédiatement placé à la place d'honneur. Simplement pour une question de rang protocolaire. Et de la même manière...
Mais c'est un truc auquel on ne pense pas quand on n'y a jamais été dans ces trucs-là, mais c'est important. Enfin, ça détermine une réunion et ça détermine donc des discussions, ça détermine des décisions. Enfin, ça n'est pas que le nombre de boutons à la couture. Enfin, ça n'est pas trivial, quoi.
Non, c'est vrai. Alors, voilà, il faut l'atténuer un tout petit peu, parce que ce n'est pas parce qu'on occupe la place d'honneur qu'on est forcément toujours écouté et suivi. On est écouté et suivi quand les conseillers civils qui sont là autour sont convaincus qu'on exprime la voix du président de la République. Et que si cette voix est ignorée, d'une manière ou d'une autre, il y aura un retour de bâton.
Bon. Oui, mais ça, c'est très intéressant. Ça, c'est la dimension de représentant, d'émissaire plénipotentiaire, en quelque sorte, du président de la République. C'est-à-dire la puissance est exactement proportionnelle à quel point vous portez la puissance du président. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sortes de discordances que vous soulignez parfois, mais précisément du fait de ce phénomène. Par exemple, sous Mitterrand, vous racontez que vous vous retrouvez parfois à remplacer le président pour des cérémonies, comme ça arrive, puisque le président ne va pas à tout, évidemment. Mais donc, vous vous retrouvez dans une place extrêmement prééminente avec des généraux étoilés face à vous, alors que vous êtes juste colonel. Même après, quand vous êtes chef d'état-major particulier de Jacques Chirac, vous relevez quelque part qu'il vous promeut au rang de général de corps d'armée, donc qu'il vous donne une quatrième étoile, parce que il dit que c'est pas normal que le chef d'état-major particulier n'en ait que trois. Ce qui indique donc que ça pose un problème, quoi. Il y a une sorte de... le fait que, en tant que militaire, vous soyez hors hiérarchie, vous puissiez en imposer à des gens pourtant plus gradés, plus élevés dans la hiérarchie militaire que vous, mais du fait de la proximité avec le président, ça pose question quand même.
Ça peut poser question, oui. À l'inverse, je crois que je l'évoque aussi dans ce livre, à l'inverse, quand on se retrouvait simplement entre militaires au sein des armées, les grades reprenaient toute leur place. Les grades et l'ancienneté. C'est pour ça que, par exemple, moi je me suis vu à une époque, quand j'étais colonel, interdit d'entrer au centre d'opération. Alors que c'était, je veux dire, fondamental pour moi, en tant qu'émissaire, si je puis dire, sous-émissaire du président de la République, chef des armées, que je puisse à n'importe quel moment rentrer au centre d'opération et m'inquiéter pour le président, m'inquiéter de l'évolution des opérations en cours. Bon.
Et il a fallu... Parce que vous n'aviez pas les étoiles, vous ne pouviez pas entrer comme ça.
Alors oui, d'abord, bon, parce qu'il y avait des règles à l'époque qui étaient fixées comme ça, s'il y avait que les généraux qui pouvaient entrer librement au ministère de la Défense. Bon, ça a changé depuis, parce que maintenant, il faut de toute manière avoir un badge. Donc. Mais à l'époque, c'était ça la règle. Et finalement, il m'est arrivé aussi très souvent de me retrouver dans des réunions internes aux armées, où j'étais là en tant que témoin, si je puis dire, pas évidemment en tant que responsable, puisqu'on n'est pas responsable quand on est chef d'état-major particulier, on n'est pas responsable. Il m'est arrivé mais de me trouver systématiquement placé au niveau où mon ancienneté de grade me permettait d'être placé, et pas au niveau réel de pouvoir, si je puis dire, qu'on a quand on est chef de l'état-major particulier. Parce que c'est un poste de pouvoir, fondamentalement, comme tous les postes de conseiller à l'Élysée.
Oui, mais alors justement, parlons-en de la manière dont ça s'articule avec le poste de pouvoir, j'allais dire de vrai pouvoir, mais pas c'est aussi un vrai pouvoir, mais de pouvoir, disons, institutionnel, qui est le poste de ses mains. Vous racontez ça, notamment dans les débuts de votre temps comme chef d'état-major particulier. Vous racontez que, je crois que c'est dans un conseil restreint de défense, au sujet d'un déploiement en Albanie, vous vous opposez au chef d'état-major des armées de l'époque, mais de la part du président, quoi. Vous portez la parole du président. Et puis, ce que vous écrivez quelque part, c'est que vous avez très rapidement compris qu'il ne fallait pas faire ça, et que tout chef d'état-major particulier que vous êtes, en fait, on ne s'oppose pas au chef d'état-major des armées, en tout cas pas en public, quoi.
Oui. Oui, c'était effectivement une erreur de ma part, une erreur de jeunesse et d'appréciation. Ça se passait en réalité en comité restreint, c'est-à-dire autour du Premier ministre, on était en cohabitation. C'est pour ça que les conseils restreints étaient toujours, les conseils de défense étaient toujours précédés par des comités restreints autour du Premier ministre pour que le Premier ministre se fasse sa position, qu'ensuite il confronterait à celle du président de la République. J'étais un peu pris par surprise, il faut être honnête. Le chef d'état-major des armées de l'époque, le général Kelch, a fait une proposition d'option de déploiement d'hélicoptères de combat à la frontière albanaise, alors que je savais, moi, que le président de la République était totalement opposé à toute forme d'intervention terrestre. Et je le savais parce que j'avais assisté à ses entretiens avec Tony Blair, avec Clinton, etc. Donc je connaissais le fond de sa pensée, bien sûr, puis j'en avais parlé avec lui. Et donc, instinctivement, sans réfléchir, j'ai tout de suite dit, ça, il n'en est pas question. Ça, c'est tout à fait contraire à ce que souhaite le président de la République. Ce qui fait que, concrètement, l'autorité du chef d'état-major des armées, sa crédibilité vis-à-vis du Premier ministre et vis-à-vis du ministre de la Défense était singulièrement entamée. C'est-à-dire qu'on se disait, voilà un type qui n'est pas fiable, quoi, qui propose des trucs qui sont complètement à l'encontre de ce que souhaite le président de la République. Avec ce type-là, on est mal barré. C'était ça le problème. Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Il a été retoqué tout de suite, d'ailleurs. Lionel Jospin a dit, bon, ben, on est écarté, option écartée. Et puis, il ne m'a rien dit, le chef d'état-major des armées, il n'a rien dit. On avait de très bonnes relations, mais pas encore suffisamment nourries. Ça faisait seulement 15 jours ou 3 semaines que j'étais en fonction.
Et pas suffisamment nourri, pourquoi ? Pour qu'il ne s'en vexe pas ou pour qu'il vous le dise ?
Pour qu'on change tous les deux, tous les deux. Pour qu'on change tout, parce qu'il fallait qu'on change tous les deux. On ne pouvait pas travailler ensemble sur des bases d'ignorance de ma part de ce qu'il allait proposer et de sa part de propositions sans avoir testé vis-à-vis de moi si ça passerait ou pas. Est-ce que le président, comment le président réagirait ? Bon. Et donc le lendemain, je suis allé le voir. Et je lui ai dit que j'avais fait une connerie, quoi, pour parler des choses, que j'avais eu totalement tort d'intervenir comme ça, publiquement, et parce que je me rendais très bien compte que ça le déstabilisait, et que ça ne se reproduirait plus. Et il m'a dit merci, c'est tout. Mais à partir de ce jour-là, il m'a toujours appelé avant les conseils de défense pour s'assurer que ça passerait. Et moi, de mon côté, je ne l'ai plus jamais contredit.
Voilà, donc merci à toutes et tous. Fin de ce premier épisode. Le prochain, la deuxième moitié, ce sera donc mardi prochain, où on parlera vraiment des années de chef d'état-major particulier du général Benteja, aussi de ses années de chef d'état-major des armées, de l'évolution de l'un à l'autre, et des grands événements, des grandes évolutions militaires qui ont rythmé le septennat puis le quinquennat de Jacques Chirac, notamment évidemment la fin du service militaire et la professionnalisation des armées, mais aussi notamment les interventions militaire répétée en Afrique et les problématiques qui y sont associées. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.